les autres?
3, 4.
Lilith, Martine.
Et les autres?
Lilith, Martine.
Oh, et les autres là?
On a mangé.
Parce que j'ai la haine. Parce qu'à un moment, on doit prendre le micro.
Parce qu'on a envie d'être entre.
Parce que plein de femmes dans le monde font des trucs et qu'on n'en entend jamais parler.
Parce qu'on en a marre qu'on parle à notre place.
Parce que j'ai envie de rigoler. Avec des copines.
Parce qu'on t'emmerde.
Parce qu'on veut apprendre ensemble.
Parce qu'on pourra se la péter en 10 ans.
Attends, je dois faire un montage son ce soir.
Parce qu'on veut écouter de la musique faite par des nanas.
Parce qu'il y a déjà 823 émissions faites que par des mecs et que tout le monde trouve ça normal.
Parce que tu veux garder tes poils.
Ou pas.
Parce que ça va en faire chier certains.
Parce que tu veux parler de toi.
Pour être forte et solidaire.
Pour s'échanger des idées, des savoirs, des pratiques et des stratégies.
Pour draguer.
Pour partager nos vies et nos envies.
Pour parler de la technique, de la plomberie,
la couture,
la politique,
la mécanique,
la cuisine,
c'est pas mal.
Pour lutter.
Parce que tu veux garder tes bourrelets.
Ou pas, hein.
Parce que les mecs, ils te font chier dans la rue.
Parce qu'on parle jamais du clitoris.
Parce que je ne suis ni ta moitié, ni une demi-portion.
Parce qu'on dit que les rêves, c'est sale et que tu pues de la chatte.
Parce que t'es trop pâté.
Parce que tu manges le gras.
Parce que je ne veux plus me taire.
Pour qu'on puisse parler.
Parce que, tout simplement, nous voulons conquérir le monde.
Le monde! Le monde!
Et
Il y a d'autres qu'on doit faire
le sexe.
Mais on a oublié le cul, merde!
Bonjour, vous écoutez Lilith, Martine et les autres sur les ondes de Radio Canu 102.2 FM, la plus féministe des radios. Pour cette deuxième émission, nous avons eu envie de vous parler de corps et de plaisir. Mais plus précisément, d'un point de vue premièrement plutôt scientifique par rapport au plaisir, ensuite d'un point de vue social et historique, puis d'un point de vue plus pratique pour finir sur quelques infos et actualités. Pour rentrer dans le sujet, je vous propose une petite introduction qui est un extrait de texte écrit par Carla Reiss en 1994. Carla Reiss, c'est une écrivaine canadienne. Chaque jour, partout, des millions de femmes se livrent à des actes d'autodestruction, contrôlés ou non, ritualisés ou routiniers. Nous nous privons en silence, nous nous affamons, jeûnons et faisons de l'exercice à outrance, reliant le bien-être émotionnel à un idéal hors d'atteinte. Nous nous assommons également avec des drogues ou de l'alcool, nous nous tailladons, contusionnons, brûlons la peau, ou nous nous dissocions de notre corps dans l'espoir de survivre en lui échappant entièrement. La plupart d'entre nous supportons cette souffrance en silence, craignant d'être considérés comme folles ou malades. Pourquoi sommes-nous si nombreuses à infliger de tels châtiments à notre corps? D'où vient cette dissociation, cette lutte, cette douleur? Carla Reiss pense qu'il s'appuie sur des expériences de vie personnelles qui ont entraîné un dégoût de soi et de son corps. En même temps, elle pense que ces expériences personnelles en question ont un sens politique profond. Ces sentiments proviennent, selon elle, d'une projection collective des tares de notre société sur le corps des femmes et s'enracinent dans une tentative séculaire de contrôler et de coloniser les femmes. Nos ressentis collectifs de dégoût, de honte et d'aliénation sont les retombées d'une guerre, un conflit mené sur les terrains de notre corps. Ce conflit, qui se joue sur le terrain de ce qui nous définit en tant que femmes, est mené à travers la régulation, le contrôle, la suppression et l'occupation de pratiques de pratiquement tous les aspects de notre être physique. Sexualité, tenue, apparence, comportement, force, santé, reproduction, silhouette, taille, espace, expression et mouvement. Les effets de cette guerre sur nos corps, nos pensées et nos états d'esprit sont semblables aux effets de violence sur le terrain de n'importe quelle autre guerre, souffrance, chaos, famine, mutilation, dévastation et même mort. Voilà des constats faits par Carla Reiss. En effet, la révolution sexuelle des années 60 n'a fait que de rendre davantage les femmes sexuellement accessibles aux hommes. Elle a substitué au non de la dernière décennie un oui quasi systématique et insatiable. il a fallu attendre l'activisme féministe des années 70 pour que commencent à se faire jour des alternatives à tout, depuis les religions patriarcales jusqu'à Freud, depuis le double standard du comportement sexuel à celui unique du contrôle patriarcal, politique et religieux, exercé sur les corps des femmes, considérés comme outils de reproduction. Aujourd'hui, on parle certes beaucoup de la sexualité, mais de quelle manière et dans quel but ? Les publicités nous montrent des femmes squelettiques dans les positions les plus inconfortables. Les magazines féminins nous donnent des recettes pour maigrir et nous expliquent comment faire pour mieux plaire sexuellement aux hommes. La radio et la télévision nous envoient des messages sexistes, véhiculent des idées transphobes, homophobes, lesbophobes et participent au contrôle de nos sexualités en ridiculisant et en condamnant les sexualités un tant soit peu hors de l'hétérosexualité et plus généralement tout ce que la société considère comme anormal. Quand avez-vous lu, vu ou entendu pour la dernière fois un article ou une émission portant sur les plaisirs sexuels des femmes, des lesbiennes et des trans, encourageant ces dernières à partir à la découverte de leur propre corps, désirs et fantasmes? Pour toutes ces bonnes raisons, et parce que nous pensons que la sexualité s'apprend, mais qu'on en parle très rarement sous l'angle du plaisir, et qu'on en parle en général de façon constructive, ni dans notre entourage, ni dans nos familles, ni à l'école, ni dans les médias, parce que nous pensons que les plaisirs sexuels, ça se discute, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour le faire, parce que nous pensons qu'en aucun cas l'amour s'occupe de tout comme par magie, et que l'on trouve qu'une autonomie sexuelle est importante, parce que personne ne peut savoir mieux que soi-même ce que nous voulons, désirons et aimons, parce que personne ne peut mieux nommer et ainsi visibiliser et changer les choses pour soi-même que soi-même, nous avons envie de contribuer à l'ouverture d'une brèche et de parler de corps, de désir et de plaisir, en espérant que cela vous inspirera grandement. Si nos corps sont des territoires occupés, transformons la relation à notre corps. Commençons donc par le cours de biologie que nous n'avons jamais eu.
En sciences de la vie et de la terre, vous avez déjà vu les organes sexuels de la reproduction. Mais quelles sont les connaissances actuelles de la science sur l'anatomie et le fonctionnement des organes sexuels du plaisir de l'être humain femelle ? Voici le cours que vous n'avez jamais eu par Séverine, apprentie médecin généraliste, et Leïla, future travailleuse sociale. Alors d'abord, pourquoi tu emploies le terme être humain femelle ?
Parce que femme n'est pas un terme de biologie, mais un terme social. Comme l'a dit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, par l'influence du système politique sexiste dans lequel nous vivons. En résumé, un petit humain naît femelle ou mâle ou intersexe, c'est-à-dire dans le continuum entre les deux. À sa naissance, on lui assigne un sexe en le désignant par « c'est une fille » ou « c'est un garçon » en fonction de ce que l'on observe au niveau des organes sexuels. Si le petit humain est intersexe, un cas sur 2000 environ, on fait une analyse génétique pour décider, et si l'on ne sait toujours pas après ça, on décide en général qu'il s'agit d'une fille et on supprime chirurgicalement ce qui dépasse. C'est la première étape de suppression de la diversité pour ne retenir que les deux cases, fille ou garçon. Puis cette fille ou ce garçon apprend à se comporter, ressentir et connaître son environnement par expérience et par mimétisme, c'est-à-dire en reproduisant les choses qu'il voit, ce qui lui donne un genre masculin ou féminin. C'est ces éléments de comportement, de ressenti ou de compétence succédant à la désignation comme fille ou garçon qui nous permettent de reconnaître un individu plutôt comme une femme ou comme un homme. Lorsque tout concorde, sexe attribué fille et genre plutôt féminin, ou bien sexe attribué garçon et genre plutôt masculin, la reconnaissance comme femme ou comme homme est facile. Lorsque ces éléments ne concordent pas, nous sommes dans l'embarras de ne pas savoir comment désigner la personne, car on n'arrive pas à reconnaître le sexe à partir du genre. Femme et homme sont donc deux termes qui distinguent les individus selon les critères sociaux du genre. De plus, Monique Wittig a ajouté que le terme « femme » s'applique uniquement si la personne vit selon l'idée d'une complémentarité avec un homme, c'est-à-dire aux personnes qui suivent l'idéal de société hétérosexuelle. Elle a déclaré « les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Donc un être humain femelle est une femme biologique vierge de tout vécu social. Elle n'existe pas en réalité, mais cette appellation convient mieux pour décrire des tissus présents chez tous les individus femelles de l'espèce humaine.
Comment tu expliques que les femmes attendent souvent que ce soit leur partenaire homme qui leur apprenne des choses sur leur plaisir à elles ?
C'est principalement lié à l'état d'esprit des femmes dans la société actuelle. Les femmes se représentent la sexualité associée à l'amour, c'est ce que montre la dernière enquête nationale sur la sexualité en France. Les femmes s'accrochent à l'idée qu'elles vont forcément apprécier la cuisine de l'homme de leur vie, plutôt que de réaliser qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Cette même enquête montre qu'elles associent aussi la sexualité à la reproduction. Elles croient que la sexualité féminine idéale, c'est d'être pénétrée par un homme avec qui elles sont en couple monogame et de qui elles sont amoureuses, c'est-à-dire la baise idéale se fait d'une façon qui permet d'avoir des enfants et avec un gars qui va rester si elle tombe enceinte. Mais il y a aussi que les informations valides sont dures à trouver. L'école, le médecin, les parents évitent de donner des informations sur le plaisir sexuel aux enfants. Ils justifient souvent cette absence d'informations par l'idée que parler de ça aux enfants, ça les rendrait pervers ou ça les traumatiserait. C'est une morale religieuse réactualisée à la sauce médicale. Enfin, la représentation la plus fréquente du plaisir des femmes, c'est celle qui est diffusée dans l'industrie pornographique. Les hommes hétérosexuels mettent en scène le plaisir des femmes tel qu'il est fantasmé. Ils voient le plaisir comme une mécanique bien rodée qui démarre par des caresses, s'enchaîne par une pénétration et aboutit à un orgasme. Le but étant l'excitation et pas l'éducation, c'est dommage qu'elle constitue actuellement la seule source de connaissances populaires, surtout chez les hommes. Donc, rien n'est fait pour qu'elles explorent elles-mêmes leur plaisir. Alors, comme toujours, elles attendent qu'un prince charmant les réveille.
Tu as dit que les informations sont rares, mais comment les as-tu trouvées ?
En tant que scientifique, j'essaie de tenir compte des données les plus actuelles et les plus valides qui viennent des expériences. Les chercheurs écrivent des articles quand ils font une expérience, puis c'est publié dans des revues scientifiques et regroupé dans une bibliothèque. C'est là qu'il faut fouiller. Les travaux d'urologie, la chirurgie du système urinaire et sexuel, et de sexologie apportent de nombreuses informations. Si vous cherchez par vous-même, vous découvrez peut-être avec surprise que la gynécologie n'apporte pas d'éléments sur les organes sexuels du plaisir de l'être humain femelle, mais s'occupe uniquement des organes impliqués dans la reproduction.
C'est quand même un peu fou de tout savoir sur le zizi depuis des siècles et de découvrir seulement maintenant comment marche le sexe des femmes alors qu'il a tant fasciné.
Oui, chaque découverte scientifique émerge dans un contexte politique et économique favorable à son apparition. Dans le cas de la redécouverte récente des organes sexuels du plaisir, il y a eu plusieurs facteurs qui ont pu favoriser l'avancée des connaissances. Par exemple, la lutte féministe pour l'égalité homme-femme, qui donne concrètement la possibilité à des femmes d'accéder à des postes à pouvoir et d'être chirurgien, par exemple. Également, la lutte féministe pour le contrôle de la fertilité, qui a permis aux femmes d'avoir des rapports hétérosexuels non reproductifs, c'est-à-dire pour le plaisir, depuis qu'elles ont accès à des méthodes de contraception fiables et faciles à utiliser. On peut ajouter aussi que l'État, qui utilise la science comme un outil de contrôle, ça encourage la recherche, y compris dans ce domaine. Même l'économie capitaliste y trouve son compte, puisque les firmes pharmaceutiques financent la recherche si le résultat des travaux leur paraît rentable. Et dans le domaine du sexe, tout se vend facilement. C'est la création d'un nouveau marché. Ainsi, l'idée que le plaisir est une condition indispensable au rapport hétérosexuel a fait son chemin, et la volonté de comprendre son fonctionnement aussi. Ce contexte est à double tranchant, puisqu'il encourage les femmes à rechercher du plaisir, mais normalise la façon d'y arriver comme un acte de consommation.
Alors c'est quoi ces organes sexuels qui servent au plaisir chez l'être humain femelle ?
Ce sont le cerveau et le clitoris.
Bon alors, commençons par le cerveau.
Le docteur Catherine Vidal, dans son livre « Cerveau, sexe et pouvoir », nous montre le résultat de ses expériences sur le cerveau. Chaque être humain naît avec un cerveau vierge d'informations. Au cours du développement, des connexions entre les neurones s'établissent en fonction des expériences que l'être humain vit. Le cerveau génère des milliards de connexions pour que l'individu réponde de façon adaptée à son environnement et acquiert des compétences. Le plaisir, lui, s'obtient par un jeu complexe de flux sanguins qui diminue dans certaines zones et augmente dans d'autres, et permet d'obtenir des réponses comme la désinhibition du comportement, l'excitation grandissante, les contractions musculaires. Le plaisir est donc une réponse du cerveau à différents types de stimulation. La stimulation peut venir des cinq sens, c'est la vision lorsqu'on regarde un film pornographique, l'odorat lorsqu'on sent l'odeur du sexe d'un ou d'une partenaire, l'ouïe lorsqu'on entend des gémissements de plaisir, le goût lorsqu'on mange un aliment qu'on adore, le toucher lorsqu'on se caresse ou qu'on se fait fesser. La stimulation peut venir du cerveau lui-même. C'est le fantasme, le scénario imaginaire autoproduit sans lien avec la réalité. Toutes ces stimulations, le cerveau est capable de les transformer en excitation ou en plaisir, selon le contexte dans lequel se trouve l'être humain femelle.
D'accord. Et pour le clitoris?
Il se situe au niveau du sexe.
On peut le voir?
Pas entièrement. Je voudrais d'abord rappeler le nom des organes qu'on peut voir si on s'assoit nu, jambes écartées, devant une glace. La totalité visible du sexe s'appelle la vulve. Elle est composée de plusieurs choses. Les grandes lèvres ou lèvres externes, de gonflements de peau sur les côtés plus près des cuisses. Elles contiennent du tissu érectile. Les petites lèvres ou lèvres internes, qui sont deux plis de peau à l'intérieur des grandes lèvres qui entourent les différentes ouvertures. Donc de l'avant vers l'arrière, il y a le canal à urine, c'est l'urètre. Puis le canal à règles, c'est le vagin. Les petites lèvres contiennent des glandes sébacées qui produisent des sécrétions. Parfois, ça peut donner des kystes. Et pendant l'excitation sexuelle, elles se gorgent de sang et du coup, on peut parfois retrouver des varices. Le vestibule, c'est la zone à l'intérieur des petites lèvres qui comprend les ouvertures de l'urètre et du vagin, plus les glandes de Bartholin et les glandes de Skene que l'on ne voit pas. Les glandes de Bartholin, c'est deux conduits de chaque côté de l'ouverture du vagin qui sécrètent quelques gouttes de lubrifiant. Et les glandes de Skene, appelées par certains glandes prostatiques, c'est deux conduits au-dessous, de l'urètre qui sécrètent un peu de lubrifiant au cours de la simulation sexuelle et seraient à l'origine d'une partie de l'éjaculat de l'être humain femelle. La taille de ces glandes est variable et elles sont parfois absentes. Et enfin, il y a le clitoris.
Depuis l'aube de l'adolescence, quand naquirent les premiers émois qui firent chavirer mon enfance, déjà tu étais là. Pourquoi devrais-je faire silence? Pourquoi garder le secret? Nier jusqu'à ton existence, toi que l'on ne nomme jamais. Alors que des bas solitaires, en aventure à quatre mains, tu me fis franchir des frontières, me fis aller toujours plus loin. J'explorais chaque latitude de mon intime géographie. Puis un jour, avec gratitude, je te revenais à l'anguille. Mon clitoris, mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson, mon clitoris. Dans les creux d'une huître soyeuse, posait-elle une perle précieuse? Dans les creux d'une huître soyeuse. S'ils furent quelques-uns à connaître mon corps d'amour épanoui, bien peu d'entre eux, je dois l'admettre, t'emmenèrent au paradis. Dès qu'il faut une tendresse experte, celui-là qui devint ton maître vit toujours à mes côtés. Mais s'il arrive que la vieillesse me couche un jour seule dans son lit, si tout le monde me délaisse, toi tu me tiendras compagnie. Et quand la mort n'aura de cesse que je lui emboîte le pas, alors dans une ultime caresse, je te dirai adieu du toit, mon clitoris, mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson, mon clitoris, posé tel une perle précieuse dans les crins d'une huître soyeuse. Dans les crins d'une huître soyeuse. Posez-t-elle une perle précieuse dans les crins d'une huître soyeuse.
Bon, et à quoi ressemble réellement le clitoris?
Le docteur Helen O'Connell, urologue à l'hôpital de Melbourne en Australie, l'a décrit parfaitement en 2005 après avoir effectué des dissections sur des cadavres et analysé son contenu grâce à l'imagerie par résonance magnétique qu'on appelle IRM. Le clitoris, c'est comme un iceberg. Il possède une partie externe minuscule, que l'on peut voir, et une partie interne immense, que l'on ne peut pas voir. Si on pouvait contempler le clitoris en regardant son sexe dans un miroir, on verrait qu'on est assis sur une petite selle de cheval avec des étriers tendus sur les côtés et des sacoches pleines. La seule partie visible, c'est le pommeau sur le devant. C'est le gland du clitoris recouvert du prépuce. Tous les nerfs du clitoris confluent dans le gland. C'est une boule de nerfs sans tissu érectile. Il est souvent douloureux s'il est stimulé directement. Tout le reste, des deux corps et des deux bulbes du clitoris, c'est-à-dire des étriers et des sacoches, se trouve derrière la vulve, sous les petites lèvres, attachées au niveau central à l'urètre et au vagin. Tous ces éléments invisibles sont composés de tissus érectiles. Les deux bulbes sont spongieux et peuvent se remplir de sang. Le clitoris semble composé des mêmes tissus que le pénis, mais organisé de façon différente. Le clitoris et ses points d'ancrage sur l'urètre et le vagin semblent être la matrice de la fonction sexuelle des êtres humains femelles et de l'orgasme.
Et comment il marche?
Il fonctionne au toucher. C'est le point culminant du sexe. Le gland du clitoris est l'élément du sexe qui se trouve le plus près de la main. On peut stimuler sa partie visible directement avec la main et sa partie invisible indirectement par pression externe et par pression interne en contractant ses muscles. Comme le vagin n'est pas composé de tissus nerveux, pour le plaisir, ce n'est pas lui directement qu'il faut stimuler. Ses parois sont conçues pour ne rien ressentir, même lorsqu'il est dilaté, comme lors d'un accouchement. C'est la pression contre les parties du clitoris attachées au vagin qui peuvent créer des sensations de plaisir, comme lors de la masturbation ou lors d'une pénétration. De la même façon, les muscles qui contrôlent la fermeture de la vessie sont proches du clitoris. On peut les contracter en se retenant fort de pisser. Cette contraction puis décontraction volontaire répétée va exercer une pression sur les parties du clitoris attachées à l'urètre et créer des sensations de plaisir.
Et comment arrive le plaisir?
Les travaux du docteur Helen Lan, chercheur au département de psychologie de l'université d'Amsterdam, et ceux du docteur Giuliano, urologue à l'hôpital Bicêtre à Paris, tentent d'élucider le déroulement du plaisir jusqu'à l'orgasme. Face à une source d'excitation, l'être humain femelle produit un afflux de sang automatique vers les parois du vagin. Elle n'en a pas conscience et ce phénomène se produit quel que soit ce qu'elle pense de la stimulation. À ce stade, elle ne le reconnaît pas comme du plaisir. Puis le cerveau doit apporter une réponse favorable à l'acte sexuel pour que le clitoris entre en action. Les corps spongieux et érectiles du clitoris pourront alors se gorger de sang. On obtient une érection qui stimule les nerfs et est source de plaisir. Si le cerveau apporte une réponse défavorable, c'est-à-dire si le sujet femelle n'a pas envie de sexe, le clitoris restera inactif. Le plaisir monte par palier jusqu'à l'orgasme. L'orgasme, c'est un plaisir explosif, perçu de façon différente selon les individus et selon les moments. Après l'orgasme, le clitoris ne débande pas. Il reste gonflé et peut être stimulé de nouveau et donner de nouveau du plaisir et d'autres orgasmes en rafale. On peut dire que l'être humain mâle n'a souvent qu'une balle à tirer, alors que l'être humain femelle peut envoyer une rafale.
Est-ce que le plaisir est instinctif?
Non. La réponse favorable à l'excitation que le cerveau produit semble plutôt liée à un apprentissage. De façon expérimentale, un appareil programmé peut provoquer rapidement un orgasme, un être humain femelle, en stimulant son clitoris dans un contexte d'excitation accepté. Et les chercheurs parlent d'éducation à l'orgasme et mettent en place des programmes destinés aux femmes qui n'obtiennent jamais d'orgasme. Donc cela passe par l'apprentissage de la masturbation individuelle et par l'apprentissage de l'acceptation de cette pratique. Ils disent obtenir de bons résultats.
Et le point G existe-t-il vraiment?
Traditionnellement, le point G a été décrit comme une zone sur la paroi du vagin, du côté du ventre, plus ou moins proche de l'entrée du vagin. Mais les urologues ne retrouvent pas cette zone lorsqu'ils dissèquent cette partie des organes sexuels. Donc on peut penser que comme cette zone est une partie du clitoris riche en tissu érectile, elle est assez sensible. Et on peut penser que le point G serait un point virtuel de sensibilité du clitoris ne correspondant pas à un organe.
Est-ce que l'être humain femelle possède une prostate ?
L'hypothèse actuelle est que les glandes de Skene sont l'équivalent d'une glande prostatique capable d'éjaculer. En 2007, le docteur Florian Wippisinger du service d'urologie de l'hôpital de Vienne en Autriche a décrit l'existence d'une structure qui pourrait correspondre à une prostate en réalisant des échographies sur deux êtres humains femelles qui déclaraient éjaculer. L'analyse du liquide émis pendant l'orgasme est proche de la composition du plasma prostatique et pas de l'urine.
Comment l'être humain femelle peut-elle éjaculer ?
On ne sait pas encore vraiment. Une étude en 1994 évalue à 6% le taux de femmes qui rapportent des éjaculations et considère l'éjaculation comme un phénomène rare, mais physiologique, c'est-à-dire normal. Une autre étude en 2007 montre que les femmes qui éjaculent n'ont pas d'anomalie des muscles de la vessie, cela indiquerait que l'éjaculat ne correspondrait pas à une fuite d'urine, comme le pensaient certains chercheurs. Actuellement, on se dit que si l'éjaculat provient de la prostate, et si la prostate est l'équivalent des glandes de Skene, il est possible que certains êtres humains femelles qui possèdent ces glandes puissent éjaculer, et que d'autres êtres humains femelles qui ne les possèdent pas ne puissent pas éjaculer. La présence ou l'absence de glandes de Skene ne poserait pas de problème particulier en dehors de permettre ou pas à une femme d'éjaculer.
Il reste que toutes ces connaissances risquent de normaliser les pratiques, non ?
Évidemment, on peut considérer que la médicalisation peut aboutir à une normalisation de la sexualité ou à une marchandisation du plaisir. Par exemple, lorsqu'on voit que les laboratoires peuvent financer des recherches pour découvrir une pilule dite du plaisir pour les femmes, ou lorsqu'on voit que l'apprentissage du plaisir aux femmes dites pré-orgasmiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore appris à obtenir du plaisir, pourrait se faire par des thérapies comportementales, on est en plein business. Mais la recherche sur la sexualité est actuellement un des plus sûrs moyens de lutter contre les idées reçues. Elle met un terme au mythe que la médecine ou la religion avaient pu construire auparavant. Ainsi, aimer son partenaire n'est pas le plus sûr moyen d'obtenir du plaisir. Pour prendre du plaisir, il vaut mieux apprendre à se masturber. Il n'existe pas de femmes frigides. Les femmes qui ne ressentent pas de plaisir sexuel ont soit une modification anatomique du clitoris, soit un mécanisme cérébral acquis qui ne permet pas une réponse favorable à la mise en jeu du clitoris. Il n'existe pas de femmes lentes à jouir, mais des situations qui ne favorisent pas l'excitation ou la stimulation. Et ce n'est pas la pénétration et le frottement du pénis dans le vagin qui fait le plus plaisir aux femmes, c'est la pression directe sur la partie visible du clitoris ou la pression indirecte sur la partie invisible du clitoris par l'extérieur ou par l'intérieur qui aboutit aux orgasmes.
Vous êtes toujours avec Lilith, Martine et les autres sur les ondes de Radio Canu 102.2, la plus féministe des radios, et on va écouter maintenant Little by Little.
Little by little. sur tous les discours et les normes qui ont été édictées autour de la sexualité. Parce qu'en fait, on a souvent l'image que la sexualité est un tabou, qu'on n'en parle pas, alors qu'il y a eu plein de discours en fait, qui ont été produits sur ça. Et c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Et donc, on va avoir une perspective historique qui va partir à peu près de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle.
Donc à l'Antiquité, il y a beaucoup d'infos qui sont diffusées, mais uniquement sur la sexualité du citoyen homme grec, l'éraste. Donc bah, bien évidemment, il n'y a que les hommes en fait qui peuvent être des citoyens. Le reste, c'est des esclaves. Et donc les possibilités sexuelles de l'éraste, c'est d'avoir premièrement une épouse qui sera chargée de la filiation, donc de procréer. Ensuite, il y a la concubine qui est dans le foyer et qui doit s'occuper du soin, qui est chargée du soin du foyer et qui sera la seconde chargée de la procréation si la première est stérile. Ensuite, il y a les courtisanes de l'Antiquité, c'est les étaïres.
Ouais, alors en fait l'étaïre c'est un peu la prostituée de classe plus aisée. En fait c'est la prostituée avec qui on peut discuter un peu philosophie, avec qui on peut aller au théâtre. Et l'étaïre c'est marrant, c'est que c'est un peu la seule femme qui peut se promener libre dans les rues, parce qu'en fait à l'époque bon, il y a la femme en fait pour se promener dans la rue doit être accompagnée soit de son époux, de son père, de son frère ou des domestiques, mais en tout cas c'est assez compliqué pour une femme de se promener seule dans la rue, pour une femme de rang convenable. Et donc l'étaïre elle a un peu cette liberté là, même si bien sûr ça reste une courtisane, donc il y a beaucoup de discours de dénigrement à son encontre, et puis même si elle peut avoir une certaine reconnaissance parfois, en fait dès qu'elle est un peu trop âgée, elle disparaît du cercle social.
Et on parle beaucoup dans l'Antiquité de l'homosexualité, donc l'homosexualité qui n'est pas nommée en tant que telle, enfin l'homosexualité légitime, elle se passe entre les érastes et des éromènes qui sont des jeunes hommes de 12 à 18 ans. Qui peuvent eux-mêmes avoir plusieurs amants en échange de la protection en fait des érastes. Et les éromènes pourront après devenir des érastes. En fait, dans leur relation, elle est quand même vachement codifiée, régulée, dans le sens où ça doit pas sortir de la relation de passif et actif, la même que la relation hétérosexuelle en fait. Donc l'éraste, il perd son statut s'il devient passif dans une relation avec les romaines. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la relation entre hommes, donc bien codifiée entre un éraste et un éromène, est garante de reconnaissance sociale beaucoup plus que les relations même d'hommes citoyens avec des femmes, en fait. Mmh. Et pour la figure de la femme, ce qui est assez représentatif, c'est ce qui se passe dans la mythologie, quoi, avec la figure notamment de Pénélope.
Ouais, c'est ça, c'est que Pénélope, un peu, c'est l'image de la femme idéale à l'époque. Et alors on voit dans la mythologie que Pénélope c'est donc l'épouse d'Ulysse, et Ulysse donc c'est l'aventurier qui parcourt le monde, qui va tuer des monstres, résoudre plein d'énigmes, sauver plein de gens, un peu l'idéal masculin comme ça de vers l'extérieur. Et tandis que Pénélope elle reste au foyer bien sagement, qu'elle attend avec fidélité son mari, alors ça dure des années hein, dans la mythologie ça peut durer jusqu'à 15 ans, et elle attend patiemment, voilà, elle refuse les autres offres de mariage, et quand Ulysse revient enfin, moi elle en avait pas douté une seconde qu'il reviendrait, et donc quand il revient il la récompense pour sa constance et sa fidélité, et on voit là un peu l'idéal de la femme donc tournée vers l'intérieur et puis tout le temps très fidèle, très aussi passive hein, forcément.
Et du coup au Moyen-Âge ouais, on fait un gros bond dans l'histoire. Et du coup, le cadre de la sexualité légitime devient le mariage, mais donc la sexualité uniquement à but procréatif. Le mot d'ordre à cette époque, c'est « multipliez-vous ».
Ouais, c'est ça, c'est marrant, c'est que c'est en lien aussi avec le fait que le Moyen-Âge est marqué quand même par deux grandes épidémies de peste qui ravagent l'Europe, où il y a énormément de morts, et c'est aussi en lien, c'est cette idée que bon là il y a quand même un grand danger pour la société, qu'on a besoin de se reproduire et que c'est important de renouveler un peu tous les morts qui sont tombés pendant la peste.
Tout ce qui n'est pas une relation sexuelle à but procréatif est qualifié de sodomie.
ou de bougrerie. Mais alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que la sodomie, ça va dessiner en fait tout ce qui n'est pas l'union entre un homme et une femme à but procréatif dans la position, la seule position admise qui est en gros la nana en dessous et le mec dessus quoi. Donc la sodomie va désigner la masturbation avec ou sans gode, la fellation, cunnilingus, le coït interrompu, la sodomisation et toutes les positions interdites, donc la levrette par exemple ou la femme au-dessus à sacrilège. Il y a une anecdote marrante, c'est un évêque au 9e siècle qui a créé un peu un code pénal ecclésiastique de la sexualité. Ça s'appelle le décret. Donc c'est un bouquin qui regroupe un peu toutes les pratiques sexuelles fantasmées par les moines et les peines associées, quoi. Donc je vais vous en lire certains passages. Article 166. As-tu bu le sperme de ton mari afin qu'il t'aime davantage grâce à tes agissements diaboliques ? 7 ans au pain et à l'eau. Article 172. As-tu agi comme font les femmes ? Elles prennent un poisson vivant, l'introduisant dans leur sexe, l'y maintenant jusqu'à ce qu'il soit mort. 2 ans de jeûne, donc tu crèves.
Plus à l'époque, c'était super courant que les femmes tuent des poissons dans leur vagin. L'horreur. Mais d'ailleurs, c'est marrant sur l'emploi de l'adjectif diabolique là sur la femme, c'est que ça rejoint au Moyen-Âge vraiment toute cette perception des femmes qui sont un peu en dehors de la norme sexuelle ou même en dehors des normes un peu sociales, qui sont taxées tout de suite de sorcellerie, donc on les appelle les sorcières et du coup, bah, ça donne des procès horribles où la fin c'est le bûcher quoi. Et...
En fait, c'est juste des femmes qui choisissent de vivre autrement, donc qui ont choisi de ne pas avoir de mari, de rester célibataire, ou qui peuvent d'ailleurs avoir des relations avec des femmes, ou sinon qui sont veuves.
Et au Moyen-Âge aussi, il y a le...
Voici un court extrait des monologues du Val. Voici un court extrait.
Et au Moyen-Âge aussi, il y a cet idéal un peu de l'amour courtois qui apparaît. Alors c'est autour de tous les textes sur la chevalerie, tout ça. Et en gros, il y a les chevaliers qui accomplissent monts et merveilles pour prouver à la belle qu'ils sont dignes de leur amour. Alors la belle qui est dans son château, qui attend avec impatience qu'il y ait un chevalier qui vienne l'épouser ou la sauver. Et ça, en fait, on le retrouve un peu plus tard, au XVIe siècle, avec tous les poèmes qui sont dédiés aux femmes et à l'idéal de la femme. Alors il y a toutes les odes un peu qui décrivent les splendeurs du corps féminin, mais toujours avec beaucoup de respect, et puis cette posture un peu inférieure d'admiration.
Et ça se retrouvera après dans l'art, avec notamment la Madone, donc c'est le commencement en fait des nus et du corps, enfin, avec des parties dévoilées, donc érotisées.
Enfin, tout ça sous couvert de religion aussi, parce que les femmes qui apparaissent un peu dénudées sur les peintures, il y a toujours le prétexte quand même que c'est des femmes un peu religieuses. Il y a la figure de la Madone, donc de la Vierge, donc bon, si on la dénude, c'est que c'est pas trop grave, parce que bien sûr, spectateurs, vous aurez bien compris que on n'a pas envie de susciter l'envie de baiser la Vierge, mais juste que voilà, au détour, ça permet quand même de montrer un sein, de montrer des hanches, enfin, et un peu tout ça, c'est nu qui sort, mais bon, il y a quand même ce double discours de dire « Ah, mais c'est de la peinture religieuse, donc vous inquiétez pas, c'est pas trop grave.
» Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que jusqu'au XVIe siècle, il y a peu de séparation des espaces, en fait, des espaces de vie et de travail, de baise, qui sont aussi des espaces partagés par petits et grands, hein. La sexualité, elle n'est pas cachée. Et du coup, au XVIe siècle, arrive la séparation vraiment des espaces, et du coup, de la chambre parentale, le temple de la sexualité légitime, quoi, impénétrable. Et on en arrive au XVIIe siècle avec la société de cour.
Bon, on dit pas qu'il n'y avait pas de société de cour avant, mais il y a quand même un truc qui se développe pas mal au XVIIe siècle autour de la société de cour, qui sont un peu les échanges de séduction avec les favorites du roi, bon, tout ça avec un fond de pouvoir quand même important. Et il y a tout ce raffinement qui se développe sur les visages poudrés, les perruques, les mouches qu'on dépose un peu partout. Et donc il y a tout cet érotisme latent un peu comme ça, mais c'est pas encore vraiment des orgies qui se produisent, ça reste des jeux de séduction assez fins. Et c'est en fait surtout après la mort de Louis XIV et au cours du XVIIIe siècle que se développe vraiment le libertinage. Alors libertinage, c'est intéressant parce qu'en fait il y a deux sens au mot libertin. On se rappelle souvent du sens de libertin, au sens sexuel, mais il y a aussi quand même, à l'époque, le libertin, c'est aussi l'athée, et c'est en gros la personne qui remet en cause le dogme de l'Église pour pouvoir développer une pensée un peu libre, donc c'est bien sûr le siècle des Lumières, tout ça. Et donc on a le libertin athée qui réfléchit, et on a le libertin sexuel aux mœurs contraires à la morale, et donc ça se développe vraiment au XVIIIe siècle. Il y a aussi bien sûr les liaisons dangereuses qui expliquent bien ça, avec toute cette figure du boudoir qui est le lieu un peu où se développe cette sexualité dans le secret, mais où il y a un vrai raffinement des plaisirs. Et puis ça, c'est vraiment le paroxysme du libertinage. On le voit avec Sade, où là, c'est une explosion de sexualité. Alors toutes les positions les plus déviantes, entre guillemets, tous les actes les plus contraires à la morale. Et en fait, là, on voit vraiment qu'il y a une transgression des codes et que le mot libertinage aussi reprend le double sens chez Sade. C'est qu'il y a une remise en cause, bien sûr, des normes de la sexualité, puisque ça déborde de sperme, de sécrétions de tout genre, de sang, de souffrance. Et puis que c'est aussi, en fait, un gros pavé jeté dans la gueule des moines, parce que, en fait, c'est... Toutes ces œuvres sont un peu un gros blasphème parce qu'à chaque fois c'est les moines qui sont les plus pervers, qui sont les plus sodomites, pédophiles. Et c'est là qu'on voit les deux sens du libertinage et aussi la transgression au sens politique, bien sûr.
Et quand même à cette époque-là aussi, c'est l'arrivée de la démographie.
Mmh. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a aussi une économie politique qui se développe parce qu'on commence à concevoir la richesse d'une nation. Plus tant en des termes de richesse matérielle, de combien on a d'or dans les caisses, mais surtout en termes de population. C'est que plus une nation est peuplée, plus elle est puissante. Et donc ça a un intérêt important pour tout ce qui est la sexualité, parce que bien sûr, on a besoin que les gens se reproduisent pour avoir le plus de bras possible pour servir la nation, alors que ce soit pour produire ou que ce soit aussi... pour la défendre en cas de guerre avec d'autres nations.
En fait, au 19e siècle, on commence à savoir que l'orgasme a finalement plus d'utilité dans la fécondation, en fait. Parce qu'avant, on pensait que l'orgasme était le seul moyen pour arriver à féconder, à avoir un enfant. Et là, on découvre que non, donc c'est dommage pour nous, parce que du coup, il y a en parallèle une naissance de la psychologie qui va appuyer toutes ces découvertes biologiques et qui va édicter en fait les différences de qualité naturelle, en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'on va définir le propre du féminin comme étant la pudeur, la possibilité de la continence sexuelle, la modération, l'absence de désir, tandis que le propre du masculin va être l'agressivité, le désir et l'activité. En fait, à ce moment-là que la sexualité devient un champ de savoir autonome, c'est accompagné par notamment l'arrivée de la psychanalyse, et les médecins à ce moment-là vont classifier les perversions, et toutes les perversions, alors, elles sont hyper nombreuses, et le remède sera la parole sur soi, de soi. Et Foucault, dans La volonté de savoir, va dire qu'en fait, il y a un assemblage entre le discours médical et la technique issue du confessionnal, donc qui est l'aveu. Et à ce moment-là, les médecins vont chercher à connaître les désirs cachés, les fantasmes, les perversions refoulées des gens pour les soigner.
Notamment sur les perversions, en fait, c'est intéressant, c'est qu'à la fin du 19e, il y a un ouvrage qui sort qui s'appelle... Psychopathia sexualis, et en fait c'est un catalogue de toutes les perversions sexuelles. Alors on a la description de la perversion de la gérontophilie, du sadisme, du masochisme, de la pédophilie et entre autres de l'homosexualité et de l'auto-érotisme. l'homosexualité est considérée comme une dégénérescence de l'esprit, donc là on a bien le côté pathologique de l'anormal, mais aussi une dégénérescence physique, parce qu'on considère que les personnes qui se livrent à des actes homosexuels ont aussi par ailleurs des anomalies physiques, que ce sont des personnes mal constituées, et en gros que ce sont des personnes malades, et que leurs comportements ne sont que les symptômes de cette maladie. Donc on a ça sur l'homosexualité, et on a aussi donc ce qui est appelé l'auto-érotisme, qui désigne en fait, bon, bien sûr, la masturbation et aussi tous les comportements un peu de trop d'attention à soi, le narcissisme. Et donc sur la masturbation, c'est considéré vraiment comme une perversion, et à ça, il doit y avoir des remèdes. Alors aussi, il y a bien sûr le thème de la femme hystérique, qui prend de l'importance à cette époque. Alors c'est plus la femme nymphomane, c'est la femme hystérique.
Avec Freud.
Ouais, avec Freud, beaucoup, évidemment. Et donc en fait, l'hystérique, ça peut désigner la femme qui soit est lesbienne, ou alors la femme qui en gros ouvre trop sa gueule, qui est un peu féministe, ou la femme qui a des comportements vraiment hors normes. Et faut savoir qu'à l'époque, donc il y a toute cette stratégie de l'aveu pour faire parler, avouer des comportements vraiment pathologiques comme ça. Et il y a un traitement médical qui est envisagé après cet aveu. C'est que par exemple au 19e siècle, alors on parle souvent de l'excision en disant que c'est une pratique barbare de pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Alors qu'en fait au 19e siècle, il faut se rappeler qu'il y a des cas d'excision à but médical. C'est que les femmes hystériques, on les excisait, alors notamment aux États-Unis, mais c'est aussi en Europe, et enfin, c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme un remède, pour en gros ramener à la normale ces femmes. Alors il y a aussi l'idée que, par exemple, on les excise parce qu'elles avaient un clitoris trop important et que ça les rapprochait trop de la figure de l'homme, et donc voilà, on les ramène à la normale.
Ouais, puis il y a une autre méthode. C'est le massage clitoridien. Et en fait, les massages clitoridiens, vu que ça prenait un peu de temps, et ben en 1880 apparaît le vibrateur électromécanique. Et oui, et du coup, voilà, le vibromasseur, il vient d'ici. En fait, c'était un remède pour les hystériques à la base. Donc les femmes internées, on les vibromassait pour...
Ou on les excisait. Bon, donc on vous laisse sur cette fin de...
Voici un court extrait des monologues du vagin de Evansler. Elle avait demandé à des femmes « Si votre vagin pouvait parler en deux mots, que dirait-il ?» Voici quelques réponses.
Ralenti.
C'est toi ?
Nourris-moi. Je veux.
Mmh.
Oh oui. Recommence.
Non, par ici.
Lèche-moi. Reste à la maison.
Sois courageux.
Réfléchis encore. Encore, s'il te plaît.
Serre-moi dans tes bras.
Jouons. N'arrête pas.
Tu te souviens de moi ?
Entre. Pas encore.
Waouh, maman.
Oui, oui. Aime-moi.
Entrez à vos risques et périls.
Oh mon Dieu. Merci mon Dieu.
Je suis là.
Allons-y. Allons-y.
Trouve-moi.
Merci. Bonjour.
Trop dur.
N'abandonne pas. Où est Brian ?
Où est Brian ?
Mais où est-il ? Ah, c'est mieux.
Oui, là, là.
Maintenant, voici quelques idées de pratiques ou de fantasmes érotiques et sexuels proposées dans une brochure qui s'intitule « Safe mais sexy, la brochure des hymen ». On y trouve des idées, trucs et astuces pour avoir des rapports sexuels tout en se protégeant.
Anilingus, baiser anal.
Flirter.
Poser des glaçons sur son corps.
Astiquer des bottes.
Fouetter les seins.
Privation sensorielle.
Bander les yeux.
Frottage.
Rasage.
Bastonnade.
Gadget sexuel, sextoy.
Rédaction d'un journal sexuel.
Câliner.
Godmicher.
Caresser.
Humiliation consensuelle.
Remettre du rouge à lèvres.
Chatouiller avec une plume.
Jeu de couteau.
Cire chaude.
Jeu de rôle.
Se mettre à genoux.
Copuler.
Jeu sanglant.
Séduction.
Cunilingus.
Lacer son corset.
Sexe téléphonique.
Cybersexe.
Lavement.
Suffocation.
Danse.
Lécher ses lèvres.
Tatouage.
Danse contact.
Lécher ses pieds.
Tenue vulgaire.
Déshabillage.
Lecture érotique.
Tété.
Dire des vulgarités.
Ligotage.
Tirage des cheveux.
Domination, soumission.
Louer des vidéos porno.
Tourner des vidéos.
Douche dorée. Double pénétration.
Lutter.
Transgendérisme.
Tribalisme.
Embrasser.
Masturbation, avec ou sans vibro.
Triple pénétration.
Enfiler un gant de latex.
Mordiller les oreilles et le cou.
Vêtements en cuir, latex.
Enfiler un préservatif.
Partouze.
Voyeurisme.
Étreinte.
Exhibitionnisme.
Pénétration anale.
Faire claquer un fouet.
Pénétration du doigt.
Faire des yeux doux.
Pénétration du poing.
Faire l'amour en cachette.
Pénétration profonde.
Fantasmer.
Fellation.
Sur divers godemichés.
Port d'un godemiché anal.
Fessier.
Port d'un godeceinture.
Alors, moi je vais vous parler de la masturbation féminine. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est se donner du plaisir sexuel pour soi-même et par soi-même, en solo ou avec un ou une partenaire, avec orgasme ou non, en se caressant et en se touchant le clitoris, le corps, les seins, l'anus ou tout ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? La masturbation féminine est encore un tabou. Certes, on parle de plus en plus de la sexualité dans le quotidien, mais la masturbation féminine reste peu présente dans les écrits et les discussions. Ce qui en est dit. Tout d'abord, les gens pensent que les femmes sont moins sexuelles que les hommes. Et la société bannit les femmes qui sont ouvertement sexuelles. Et une des conséquences est que les femmes pensent qu'elles ne devraient pas avoir de forts sentiments ou de désirs sexuels. De plus, la masturbation féminine n'est pas seulement une activité pour s'occuper lorsque nous sommes seuls. Cependant, se masturber alors qu'on a un ou une partenaire peut être vu comme un adultère, ou pire, que la ou le partenaire ne peut pas nous satisfaire. Il y a aussi tout un tas de mythes autour de la masturbation féminine et de la sexualité des femmes. Comme par exemple, les femmes sont frigides et n'ont pas ou peu de sexualité. Ou, comme on pouvait le penser, la masturbation n'est pas un moyen pour calmer les hystériques ou encore juste pour les célibataires ou une pratique relevant de la perversité. Et pourtant, la masturbation féminine peut permettre de mieux connaître son corps et du coup prendre plus de plaisir. C'est une opportunité d'explorer son corps et d'apporter une liberté sexuelle. Ça peut également donner de l'assurance. Mais c'est aussi un moyen de partager du plaisir avec un ou une partenaire. Lorsque je parlais précédemment du fait que si on a un ou une partenaire, on pense qu'il n'est pas nécessaire de se masturber, car les activités sexuelles avec lui ou elle doivent satisfaire tous nos besoins sexuels. Bien que ce soit un bel idéal de la vie réelle, dans la vie réelle, la plupart des besoins sexuels des femmes ne sont pas satisfaits pleinement par leur partenaire. Peu importe combien le ou la partenaire est bon, bonne ou amoureux, amoureuse. Se masturber quand on a un ou une partenaire est une chose normale et une femme ne devrait pas se sentir honteuse si elle le fait. Pour se masturber, on peut utiliser différentes méthodes et techniques. À l'aide de ses doigts ou avec un vibromasseur. Ou des godes ou encore des ustensiles à portée de main. Et pourquoi pas une carotte ou un concombre. Épluché, l'idéal étant quand même de mettre un préservatif dessus. Pour s'exciter, n'oublions pas les lectures érotiques ou les films. Bref, laissons nos fantasmes et nos imaginaires parler. Et il n'y a pas de recette miracle. Nous sommes toutes différentes et nous atteignons le plaisir de manière diverse et variée. À nous de trouver et d'expérimenter ce qui nous convient. Ça peut prendre du temps, mais une fois que c'est trouvé, qu'est-ce que c'est bon ? Je vais maintenant vous lire un extrait d'un témoignage d'une brochure qui se nomme « Ça rend sourde ». Séverine Lagnès. Je suis persuadée que tout le monde, je dis bien tout le monde, se masturbe de temps en temps ou a eu une période de touche pipi. Pourtant, j'ai longtemps cru être la seule fille à le faire. Pour les gars, je savais que ça existait. Comment y échapper avec toutes les blagues grivoises ou des mecs se branlent, etc. Mais jusqu'à l'âge de 15-16 ans, jamais entendu parler de filles qui se donnent du plaisir.
Même si j'en avais vu dans des films érotiques ou porno, je pensais que c'était du cinéma et qu'en réalité tout cela ne se pratiquait que très rarement. Je pensais la même chose pour la fellation, quelle niaise. Comment ai-je découvert les joies de la masturbation ? Tout a commencé, on dirait Pépé qui raconte la guerre. Quand j'avais 8-10 ans, par mon premier bonheur sensuel solitaire. Sans réfléchir, je me suis mise toute nue et me suis glissée doucement dans les draps de mon lit. Vous me direz quoi de plus normal, c'était l'heure de se coucher. Sauf que d'habitude, je dors en pyjama et que la sensation du frôlement des draps frais sur ma peau m'a fait un effet sensas. J'étais toute bouleversée. J'en ai enlacé mon traversin et me suis endormie. Mon premier plaisir sensuel, sexuel ou du moins sensuel, conscient. Puis, petit à petit, les années passant, je me suis caressée moi-même toutes les parties du corps pour finir vers le méconnu con. J'ai connu, à ma grande surprise, le plaisir clitoridien. Et un jour, ou plutôt une nuit, où j'étais peut-être plus excitée qu'une autre, un de mes doigts a malencontreusement glissé dans un trou chaud et humide. J'ai eu très très peur. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'avait bien dit en cours de biologie que les femmes avaient un vagin, un utérus, etc. Mais bon sang, moi aussi j'en avais un et je ne l'avais jamais remarqué. On en apprend tous les jours sur soi. Ensuite, je vous passe les détails de mon évolution vers des techniques masturbatoires plus élaborées et pas seulement génitales. N'empêche que je connaissais aucune fille qui se masturbait et ça m'embêtait et me donnait des préoccupations d'adolescente typiques. Suis-je normale? Suis-je perverse? Aurais-je du plaisir avec autrui? Et enfin, une copine finit par me dire qu'elle s'était déjà tripotée. Comme j'étais contente, je pensais déjà qu'on allait s'échanger nos impressions, nos trucs. Mais le rêve de complicité s'est achevé. Elle n'y avait pas pris son pied et trouvait ça absurde. Zut. J'ai perdu l'occasion de partager ça avec quelqu'un. Et puis, je me suis dit qu'avec toute cette libido assouvie toute seule, je devrais peut-être la partager avec un partenaire. Et un jour, tadam, la première expérience hétérosexuelle de Sissine. Coït pas très convaincant. Tant pis, faut réessayer. Plus tard, un autre partenaire. Nul. Merde. Comment allais-je me sortir de ce pétrin? Ras-le-bol de faire l'amour toute seule. Le quasi-miracle. Quand arrive un partenaire, très bien. Donnage de plaisir à Sissine, formidable. Et pourtant, je continuais à me titiller les zones érogènes quand j'étais seule. Et là, je me suis dit, c'est génial, je profite de deux jouissances sexuelles. Moi, je dis, dans la vie, faut pas s'en faire. Je vais pas me priver d'un de ces deux plaisirs. Et j'y pense, je pourrais peut-être en avoir avec une troisième, différente, avec une demoiselle. En tout cas, je n'ai qu'un conseil. Masturbez-vous, il n'y a pas de mal à se faire du bien.
Merci pour ce beau témoignage, ce chaud témoignage sur la masturbation. Donc maintenant, je voulais juste dire que si vous cherchez des livres érotiques ou qui parlent de sexualité ou de plaisir, je peux vous conseiller trois librairies sur Lyon. Il y a le Bal des Ardents qui est dans le premier, je ne me rappelle plus de la rue exactement, Terre des Livres dans le 7e rue de Marseille et État d'Esprit aussi dans le premier, pas loin du métro...
Croix-Paquet,
exactement, merci. Voilà, on peut y trouver quelques livres sur le point G, l'éjaculation féminine, le cunnilingus, les plaisirs anaux, les jouets sexuels, etc., etc., etc.
Alors maintenant, quelques petites infos. Donc, on commence par une petite info rigolote. Donc, c'est vu sur le blog Les 400 Q, qui est un blog qui parle de sexe, comme son nom l'indique. Donc, il y a un concours qui est organisé aux États-Unis pour encourager les jeunes à l'abstinence. On peut gagner 10 000 dollars si on arrive à la cérémonie de mariage vierge. Et on gagne surtout si la cérémonie est faite sans alcool. Donc voilà, donc on sait déjà qu'ils sont assez forts aux États-Unis pour tout ce qui est campagne sur l'abstinence. Mais c'est vrai que là, c'est gros. Une petite info un peu moins rigolote sur l'état de la contraception en France. Donc c'est une lettre du planning familial qui nous informe de ça. Il y a une enquête qui a été faite sur Nice par des gynécologues, obstétriciens. En fait, les pharmaciens, ils ont obligation de délivrer la pilule du lendemain aux mineurs qui le demandent, sans demander leur identité et de manière donc anonyme et gratuite. Et en réalité, donc ils sont aperçus sur Nice que